Bonjour, nous avons choisi plutôt un enregistrement oral, certainement peut-être moins fastidieux que la lecture d'un texte, comme si un peu comme si on était réunis ensemble au carré d'art, mais ça reviendra certainement un jour. Donc on va parler du livre de Joseph Pontus à la ligne, sous-titre Feuillet d'usine. Ce serait bien que vous puissiez ensuite, peut-être par un message audio ou quelques mots, réagir aussi et ouvrir une discussion sur ce livre, savoir s'il vous a intéressé et si vous voulez en parler. Bon, d'abord pour cette nouvelle année, je vous souhaite, comme notre auteur de ce mois de janvier 2021, dans une belle lettre à sa mère, au chapitre 55, Force, courage, endurance. À Joseph Pontus, il faudra aussi beaucoup de force, de courage et d'endurance cette année, car c'est Sylviane qui l'a repéré sur Facebook et qui me l'a signalé. Il est très gravement malade. Récemment, de son lit d'hôpital, il se réjouissait cependant de la publication d'un de ses poèmes dans une anthologie qui est parue récemment au Castor Astral. Je vais essayer de me la procurer, puis peut-être je vous enverrai un petit message à ce sujet. La première fois que j'ai vu Joseph Pontus, je l'ai vu puisque c'était à la télévision, il intervenait dans le documentaire Le temps des ouvriers sur Arte, 4 épisodes toujours disponibles. Et j'ai retenu son intervention, car il était à la fois précis, pertinent comme un sociologue du travail, mais surtout on sentait que ce dont il parlait, il l'avait éprouvé, vécu, enduré, et cela donnait beaucoup de force à son intervention. Ensuite, j'ai acheté quand j'ai trouvé le livre, j'étais un peu déroutée quand même, et pour tout dire, un peu déçue de voir toutes ces lignes comme des vers libres qui ne m'attiraient pas trop a priori. Et effectivement, ça ne ressemble pas à l'écriture classique d'un roman. Mais de mon point de vue, j'espère que ça a été la même expérience pour vous, il suffit de démarrer la lecture pour être entraîné dans ce flot, cette parole qui emporte tout et qui ne vous lâche plus. À la ligne, c'est la chaîne, il dit, page 57, à cette heure-ci, je devrais être sur ma ligne. C'est le rythme des gestes qui se succèdent et la répétition interminable de ces gestes. Page 17, j'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. C'est aussi la succession des missions d'intérim, hein, page 123. Tant qu'il y aura des missions d'intérim, ce n'est pas encore le point final, il faudra y retourner à la ligne. Pas de ponctuation et ce sont les derniers mots du livre, il n'y a pas non plus de point final. Ce parti pris d'écriture, cette prose poétique, très originale et très maîtrisée, donne au livre tout son intérêt, tout son sel. Personnellement, je l'ai ressenti comme un choc avec ces procédés de répétition, les jours identiques qui se succèdent, les gestes et les douleurs répétées, la cadence des machines, les carcasses qui se suivent, le sang et encore le sang. Il le renvoie à la ligne qui a souvent un effet d'un coup qu'on balance. Par exemple, page 178, on s'épanche un peu, certains prennent le temps de lâcher 5 minutes leur poste de travail. Une éternité. C'est pour moi la force de ce livre, avoir trouvé une forme de récit et d'écriture qui disent cette réalité du travail, de l'usine, de la vie quotidienne. C'est un drôle de voyage qu'entreprend Joseph, profession éducateur, qui abandonne son travail pour vivre avec sa femme à Lorient. Il faut quand même gagner des sous. Là encore, une façon de dire qu'il répète souvent, qui est un peu vieillotte, mais très matérielle. Et pour gagner des sous, il faut travailler. Et pour trouver du travail, il n'y a que l'intérim et les usines agroalimentaires de Bretagne. Poisson et viande au menu. Le récit va donc entrelacer deux lignes principales autour de l'usine, le travail d'une part et le temps. Avec, ce sera la conclusion, en contrepoint, ce qui sauve, l'amour, les chansons, les poèmes, l'écriture. Le travail, c'est un travail contraint, bien sûr, sans qualification, C'est aussi un travail précaire. Deux tiers des ouvriers sont des intérimaires, contrat de 2 jours, d'une semaine maximum, renouvelé ou pas renouvelé. C'est la classe ouvrière d'aujourd'hui. Page 20, au début du livre, il écrit: on aimerait l'écrire le 19e et l'époque des ouvriers héroïques. On est au 21e siècle. J'espère l'embauche. J'attends la débauche. J'attends l'embauche. Toujours disponible et toujours précaire, parce qu'on dépend du covoiturage. Pas de grève non plus pour les intérimaires. Page 184, il écrit: aujourd'hui, les choses sont claires. Un intérimaire en grève, ce qui est son droit, et bye bye. On voit là de nouveau la force du procédé à la ligne, mettre en relief, donner un rythme à l'écriture et envoyer au lecteur et interpeller le lecteur. Le travail, donc, c'est aussi la douleur, une agression permanente, froid, odeur, bruit, douleur, violence, fatigue. Et le travail, c'est aussi, parce qu'il a quand même de l'humour, des qualifications improbables, égoutteur de tofu ou dépoteur de chimères. Il y a donc aussi de l'humour dans ce livre, de l'ironie et une attention aux autres qui permet de ne pas être totalement dominé. Page 154, Joseph Pontus écrit: l'usine est, plus que toute autre chose, un rapport au temps. Le temps qui passe, qui ne passe pas. Évitez de trop regarder l'horloge. Rien ne change des journées précédentes. Répétition des journées, des gestes, des trajets. Attente de la pause, pointage, pause, pointage, retour à la chaîne, etc. Jour après jour, heure après heure, le temps est une obsession. L'ouvrier ne maîtrise pas son temps, ni dans l'usine, ni au dehors, puisque les changements d'horaire, on peut être du matin, le lendemain de l'après-midi ou de la nuit, lui sont aussi imposés. Le temps lui-même est indifférencié comme nié par la vie à l'usine. Page 210, il écrit: le matin, c'est la nuit, l'après-midi, c'est la nuit, c'est encore pire. Dès qu'on rentre dans l'usine, c'est la nuit. Et puis, parfois, un moment de grâce, la nuit passe paisiblement, il cite, le temps léger s'enfuit sans m'en apercevoir. Là aussi, Joseph Pontus, malgré la violence du texte, ne s'autorise aucune faiblesse, aucun apitoiement sur son sort. Il n'y a pas non plus place pour le ressentiment ou l'aigreur. Je pousse des carcasses, sans fin. Je ne fais que gagner ma vie, non. Gagner des sous, non. Vendre ma force de travail, voilà, c'est ça. Attendre et espérer, donc. Et en attendant tous les jours l'usine. L'usine est le personnage du livre en fait. Immense hangar glacé, éclairage néon et puanteur, totalement impersonnel, comme aucun autre lieu de travail ne l'est. Les marchandises elles-mêmes sont en quelque sorte déréalisées. Crevettes, crabes, bulots, porcs, veaux, vaches perdent leur réalité animale. Ce sont des quantités invraisemblables, 40 tonnes de crevettes par jour, un arrivage de 10 tonnes de sardines, 15 tonnes de bulots, du poisson pané, des montagnes de tofu. C'est une sorte de fromage de soja, je ne vois pas trop le rapport avec les poissons et les crustacés. Des packs en polystyrène qu'il faut remplir, vider, des emballages qu'il faut vider pour remplir d'autres emballages. Et 167 litres de béchamel avec 30 kilos de poudre de perlimpinpin, dit-il. 290 tonnes de viande à charger dans des camions. Le sang des bêtes jusqu'au cauchemar. On reste un peu suffoqué de ces débordements de marchandises. Et là encore, alors que l'auteur ni n'insiste ni ne fait la leçon, on s'interroge sur la nécessité de produire et de transformer ainsi à l'excès, et donc de consommer ou d'être poussé à la consommation dans le même excès. Page 238, il écrit « À l'abattoir, au mauvais jour, on disparaît sous la production d'animaux morts, un amas d'os, d'abats, la chair, du sang, on n'y croit pas, on n'y croit plus. Fatra d'ama, hallucination du trop d'animaux morts, pourquoi, pour qui ?» Le discours sur l'usine, c'est aussi les autres, chefs, commerciaux, ouvriers titulaires, intérimaires. Ce ne sont souvent que des silhouettes un peu perdues dans la grande machinerie de l'usine, mais on retient quand même le jeune ouvrier homosexuel qui en a bavé et qui va se marier, le tir au flanc, l'étudiant en histoire, l'accident, quelques échanges dans le vestiaire, l'entraide quand la chaîne s'emballe et qu'on n'arrive plus à suivre. Mais comment se parler avec les bouchons d'oreilles, le bruit des machines, le temps qui file, et finalement, pour se dire quoi ? Mais Joseph Pontus a aussi un rapport assez particulier et assez curieux, je dirais, à l'usine. Il a des expressions qui disent à la fois le rejet et l'envie de fuir, mais aussi l'appartenance et la familiarité. Un paradoxe qui est annoncé dès le début du livre, page 14. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arête dans la gorge. Non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Joseph se sent exister comme une part, comme présent dans ce grand